La mutualité française s'est penchée sur les inégalités devant l'accès aux soins.
C'est un problème majeur de notre société et dont on parle peu. Beaucoup de Français ne peuvent plus se soigner par manque d'argent, de couverture santé ou manque de médecins. Sur ce constat, la mutualité française a invité Fabrice Henry, qui a présidé l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de 2009 à 2016, pour une présentation de la situation. La couverture santé et la protection sociale, notamment des plus défavorisés, ne cessent de se dégrader. L'accès aux soins, malgré des services et dispositifs en nombre sur le territoire, laisse à désirer, souvent pour des raisons de coût ou d'éloignement physique. Notre système de santé, longtemps cité en exemple, bat de l'aile. Et ce sont les plus fragiles qui en pâtissent. Dépassement d'honoraires, faiblesse des remboursements de la sécurité sociale et exagération des coûts médicaux et remboursements et hospitaliers, les freins sont nombreux. Ajoutez à cela une véritable jungle des dispositifs et des changements constants, le patient est perdu. Des jeunes ne se soignent plus, les faiblesses auditives ou visuelles s'aggravent et n'ont plus de réponse médicale ni matérielle. Les mutuelles complémentaires se substituent de plus en plus à la sécu et malgré cela, le reste à charge pour le patient est à la hausse. Messieurs Comte, Hérault et Décubert, responsables élus de la mutualité française, ont accueilli Fabrice Henry pour des échanges nourris sur tous ces sujets dans le cadre de l'opération Place de la Santé lancée par leur structure au plan national. Je vous propose d'écouter Fabrice Henry sur les inégalités dans le domaine de la santé. Il répond aux questions de François Malabave.
Fabrice Henry, vous êtes venu à l'invitation de la mutualité française pour parler d'inégalités face aux soins et de l'accès aux soins également, des inégalités qui se creusent.
Oui, ce sont effectivement des inégalités qui se creusent et qui s'accentuent énormément pour différentes raisons. La progression de la pauvreté dans notre pays, l'inaccessibilité à certains professionnels de santé du fait de leur éloignement et du fait de leur concentration dans certaines zones et leur absence dans d'autres zones. Et bien évidemment, la méconnaissance de certains dispositifs, le manque d'éducation à la santé finalement de l'ensemble de la population et de l'ensemble des citoyens. Donc tout cela se caractérise d'une manière très précise dans les résultats qui sont notamment publiés par l'INSEE ou par l'ADRES et qui démontrent bien à quel point vous avez la concentration d'inégalités, de pauvreté dans certaines régions de France. Et nous ne sommes plus dans une médecine à deux vitesses, mais dans une France qui est fracturée en métropole, zone rurale, zone où il y a effectivement encore des possibilités de se soigner et puis malheureusement des zones où il est de plus en plus difficile de trouver un médecin, voire de pouvoir payer, parce que y a aussi le problème de l'accessibilité financière.
C'est un petit peu une double peine, c'est-à-dire qu'une personne et un territoire qui est pauvre est un territoire qui ne se soigne pas.
Exactement. Il y a vraiment superposition des éléments. Hein. Les bénéficiaires, par exemple, de la CMU sont concentrés là où il y a le plus de pauvreté. Vous me direz, ça va de soi, puisque c'est sur critères économiques. Mais en même temps, nous savons très bien aujourd'hui, par certains observatoires, que 30 voire 35% des personnes qui pourraient bénéficier de la CMU n'en bénéficient pas, que plus de 60% des personnes qui pourraient avoir une aide à la complémentaire santé n'en bénéficient pas parce qu'ils ne connaissent pas les dispositifs. Il y a le problème, comme je l'évoquais, d'éducation, mais aussi de connaissance des droits, qui sont des problèmes fondamentaux. Et donc, la difficulté, c'est l'accompagnement de ces personnes. C'est de leur permettre, non pas simplement de dire « vous disposez d'un droit » ou « vous pouvez disposer d'un droit », mais c'est de les aider à accéder au droit. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que tous les patients en France, qu'ils soient pauvres ou riches, devraient, en toute logique, dans une république telle que celle de notre pays, eh bien être traités à égalité. Il ne devrait pas y avoir finalement de sélection par l'argent ou de sélection, je dirais, en fonction de la fortune du patient.
Et vous avez donné l'exemple d'un euro de dépassement et qui permet effectivement de sanctionner, entre guillemets, le malade et d'enlever ce principe d'égalité de soins qui est posé par la Sécurité sociale en 1945.
Bien évidemment, l'instauration des franchises et des participations forfaitaires touche les personnes qui sont malades, puisque c'est soit sur les médicaments, soit sur la consultation. Quand ce dispositif a été instauré, l'explication qui en avait été donnée, c'était pour responsabiliser les patients sur les dépenses de santé. Mais quand vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'être responsabilisé par rapport à votre maladie. Cela se traduit certes par des économies en termes de dépenses pour la sécurité sociale, mais surtout par une rupture fondamentale du principe à chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Donc là, effectivement, on n'est plus à chacun selon ses besoins. La personne qui doit ne pas payer un euro, alors heureusement qu'il y a eu un taquet mis à 50 euros sur les participations forfaitaires et sur les franchises, mais malgré tout, pour certaines personnes, 50 euros, quand on est très malade, quand on a très peu de ressources, c'est énorme.
Vous avez également évoqué la question de l'installation des médecins, les médecins libéraux, une installation qui est fixée depuis déjà 1927 et qui ne tient pas compte, là non plus, de l'avancée de 1945.
Oui, effectivement, la Charte de la médecine en 1927 voulait protéger la médecine libérale avec une liberté d'installation, de prescription et tarification. Et cela au moment même où se discutait en France l'instauration des lois sociales de 1929 et 1930. Au-delà de cet aspect, j'allais dire, protectionniste vis-à-vis d'une population qui est la population médicale, eh bien, quand il y a eu l'instauration de la Sécurité sociale en 1945, avec une socialisation des moyens et bien évidemment une meilleure stabilisation de l'activité des médecins, parce que une rémunération plus sûre et plus certaine par l'intermédiaire de la Sécurité sociale, ces principes n'ont pas été re-questionner, en tout cas, à tout le moins remis en cause. Or, aujourd'hui, nous pouvons nous questionner, est-ce que la liberté d'installation est un principe qui convient par rapport aux déserts médicaux ? Est-ce que la liberté de prescription n'a pas ses limites, notamment dans la responsabilité qu'elle entraîne par rapport à certaines pathologies ou par rapport à certaines prescriptions elles-mêmes ? Et puis enfin, la liberté de tarification, est-ce que c'est pas tout le contraire de ce que voulait instaurer la Sécurité sociale, c'est-à-dire permettre à chaque Français d'avoir une couverture sociale et de se couvrir au niveau de sa santé d'une manière digne ?
Et on sait bien que plusieurs scandales, à la fois financiers et sanitaires, sont arrivés ces dernières années et qui remettent en cause un petit peu ces principes par rapport à l'intérêt général. Est-ce qu'on peut améliorer les systèmes de soins français et l'accès aux soins ?
Bien évidemment, je pense que nous pouvons améliorer le système de soins en France. Je dirais le système de santé, parce que j'aurais dû sans doute évoquer tous les efforts que nous avons à faire en termes de prévention, parce que nous avons beaucoup de retard en termes de prévention par rapport à d'autres pays industrialisés et pays d'Europe. Donc déjà, la prévention, de l'éducation à la santé, et puis surtout une meilleure organisation des soins. Il n'est pas concevable près de 80% des urgences à l'hôpital ne soient pas réellement des urgences, et c'est pas parce que les gens choisissent l'hôpital, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Donc là, il y a vraisemblablement une réorganisation à mettre en œuvre, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des principes simples. Il y a des patients, il doit y avoir des médecins, et en tout cas, il doit y avoir des soignants qui sont là par rapport à la population, qu'elle soit rurale, qu'elle soit une population fortunée ou pas fortunée. Voilà. Nous avons tous droit à l'accès aux soins, à l'accès à la santé. Il y a une vraie question de réorganisation. Malheureusement, ces dernières années, nous avons souvent vu des dispositifs qui visaient à renvoyer vers la prise en charge, notamment par les complémentaires, certaines populations, je pense à la CMUC, je pense à la complémentaire santé, sans remise en cause ou remise à plat des dispositifs en termes d'accès aux soins et en termes de proposition de soins et de services. Et donc là, il y a des efforts importants, très importants à mener. La mutualité, on a donné un certain nombre d'exemples en créant des centres de santé, centres d'optique, centres dentaires, en étant innovante dans bon nombre de domaines, y compris dans certains établissements chirurgicaux et médicaux de la mutualité. Mais ce n'est qu'un des éléments pour faire progresser les choses. Il y a aussi une meilleure coordination à trouver entre les différents professionnels de santé. Il y a des délégations de tâches vraisemblablement à imaginer et à développer, comme elles existent dans bon nombre de pays d'Europe et malheureusement pas suffisamment en France, que ce soit dans le domaine de l'optique et de l'ophtalmologie, que ce soit dans le domaine de la prise en charge par rapport à la vaccination, que ce soit dans d'autres domaines encore. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays d'Europe qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué par rapport au rôle du médecin et au rôle des auxiliaires médicaux, par exemple.
Enfin, Fabrice Henry, vous avez aussi dénoncé la mainmise en ce qui concerne les chirurgiens dentistes sur les exagérations exponentielles des prix des prothèses qui n'ont rien à voir avec la réalité et dont malheureusement le reste à charge est à payer par le malade lui-même, le patient.
Oui, alors il y a effectivement un problème d'équilibre des cabinets dentaires. En tout cas, l'examen que l'on peut porter sur leur activité le révèle. Aujourd'hui, en moyenne, un tiers de l'activité d'un cabinet dentaire porte sur la prothèse et deux tiers sur le soin. Or, deux tiers des revenus viennent de la prothèse et un tiers des soins. Donc il y a déjà un rééquilibrage à trouver entre le soin et la prothèse. Mais on ne peut pas rééquilibrer le soin qui a tarif opposable et la prothèse qui n'est pas à tarif opposable, c'est-à-dire qui a tarif libre. Donc il y a aussi à s'interroger sur le coût, effectivement, de la prothèse par rapport à la réalité de la fabrication de la prothèse, par rapport à sa mise en bouche, par rapport, effectivement, au suivi qu'exerce le chirurgien-dentiste. Donc, il faut trouver un nouvel équilibre qui évite les exagérations que l'on peut, malheureusement, parfois constater et le fait, surtout, qu'aujourd'hui, nous avons dans les renoncements aux soins 40% à peu près les renoncements aux soins qui sont dans le domaine de la prothèse dentaire parce que ça nécessite un effort financier important pour un certain nombre de patients en France et c'est un sujet sur lequel nous devons absolument trouver des solutions. Alors avec les professionnels de santé, ça va de soi, avec les chirurgiens dentistes. En même temps, je crois que les chirurgiens dentistes doivent être attentifs au fait que si ils ne trouvent pas de solution avec les mutuelles, avec l'assurance maladie, avec les patients pour leur permettre de mieux être suivis, eh bien, il y a des solutions, je dirais, alternatives qui se mettent en œuvre. Par exemple, des centres low-cost de prothèses dentaires qui ne sont acceptables pour personne, que ce soit pour les professionnels de santé, pas plus pour les patients, parce que il y a une pratique qui, à ce moment-là, évacue le soin pour ne prendre que ce qui est rentable en termes de prise en charge. Si les chirurgiens dentistes ne veulent pas que ce type de centre se développe, je crois qu'ils ont tout intérêt à trouver des solutions qui soient, je dirais, raisonnables, d'autant que nous sommes dans une situation économique qui, aujourd'hui, est loin d'être florissante, et avec 8 700 000 pauvres dans notre pays. Donc il faut prendre tout cela en considération.